Je vais prier. Seigneur, merci pour le grand amour que tu as pour nous. Seigneur, tu as voulu te révéler à nos cœurs. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions te connaître, non pas seulement à l'extérieur, mais aussi, Seigneur, à l'intérieur de nous. Que nous puissions avoir une communion avec toi. Que nous puissions recevoir de ton esprit. Et que nous puissions être cachés en Dieu avec toi. Seigneur, ce matin, nous voulons mesurer ce que cela signifie que de te connaître vraiment. Nous voulons mesurer, Seigneur, pour notre bien-être, mais aussi celui de nos proches, de la ville, du monde, ce que signifie connaître Jésus et la délivrance qu'il accorde. Seigneur, nous voulons être prêts quand tu viendras. Seigneur, je prie que ce matin, tu continues à parler à nos cœurs, que tu continues, Seigneur, à inspirer. Et Seigneur, qu'il y ait une bonne odeur qui règne ici pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Pilate a posé une question à Jésus. Jésus, à un moment, quand il était devant lui, a déclaré à Pilate : « Je suis venu afin de rendre témoignage à la vérité. » Et Pilate lui a posé une question : « Qu'est-ce que la vérité ? » Et ensuite, il a dû tourner talon et partir, puisqu'il n'a pas eu de réponse. Vous lisez ça dans Jean 18. Qu'est-ce que la vérité ? Alors, si je m'adressais à un parterre de philosophes, on me dirait : « Tu es bien prétentieux pour vouloir nous donner une définition de la vérité. » Et aujourd'hui, c'est la mode, hein, de dire que la vérité, ça n'existe pas. La vérité est polysémique et multiforme. Beaucoup de définitions et beaucoup de façons de la présenter. Tout dépend de l'angle de vue, tout dépend de par où vous prenez les choses. Si vous les prenez d'en haut, si vous prenez d'en dessous, sur le côté. Et traditionnellement, on donne cette image de cinq aveugles qui veulent définir ce qu'est un éléphant. Alors évidemment, un aveugle va prendre une jambe, il va dire un éléphant, ça ressemble à une jambe arrière. L'autre va prendre la jambe avant, il va dire un éléphant, ça ressemble à une jambe avant. L'autre va prendre la trompe, la queue. Enfin, évidemment, pour un aveugle, la vérité, c'est ce qu'il a dans les mains. C'est ça que ça signifie. Et donc on essaye aujourd'hui d'appliquer cela de façon universelle et ça marche bien. La vérité aujourd'hui, on accepte communément de dire que ça n'existe pas. Et moi j'ai la faiblesse de croire que la vérité, ça existe. On en est un peu rendu à ce qu'on disait par rapport à l'intelligence la fois dernière. La seule intelligence qui vaille est celle qui est liée à la connaissance de Dieu. C'est cela l'intelligence, la connaissance de Dieu. La vérité, évidemment, elle-même, est liée à la connaissance de Dieu. Et donc, Pilate, pour avoir sa réponse, eh bien, il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'est dans l'Évangile, dans les Évangiles et ensuite dans les Épîtres, il aurait pu avoir la réponse à sa question : « Qu'est-ce que la vérité ? » Je vais faire court pour la définition, parce que si vraiment on devait travailler là-dessus, il y aurait des bouquins à écrire complets. Donc je vais rapidement passer sur ce que la Bible dit, en tout cas le Nouveau Testament, sur la vérité. Et ensuite j'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous concernant sa position par rapport à la vérité aujourd'hui. Donc la vérité est en Dieu, et elle est aussi en Christ. Aujourd'hui, en fait, de dire que la vérité n'existe pas, ça facilite de dire que Dieu n'existe pas. N'est-ce pas ? Si on dit la vérité n'existe pas et que derrière le V de vérité, on veut mettre un D, eh bien, on dit que Dieu n'existe pas. Et on peut le dire facilement, puisque la vérité n'existe pas. Si la vérité n'existe pas, l'erreur et la faute n'existent pas non plus. N'est-ce pas ? Donc on s'est créé comme ça un entre-deux, une sorte de facilité de passer au travers de la vie, en disant, mais si un jour j'agis comme ça, j'agis mal, mais... Prenons l'exemple des peintres. Je ne sais pas si les vieux peut-être vous rappelez. Lorsqu'on faisait des faux, des tableaux, les vieux, hein, je parle juste pour moi, quoi, hein, je ne parle pas... On faisait des faux. On appelait ça des gens qui faisaient ça, on les appelait des faussaires. Et donc, ils peignaient, ils copiaient des tableaux de maître et ils les mettaient en vente sur le marché. Et ils se faisaient prendre et ils allaient en prison. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. On n'entend plus parler de faussaires. On parle de l'art du faux. N'est-ce pas ? Il y a un marché parallèle qui se crée aujourd'hui où on accepte la copie et il y a même un marché de la copie maintenant, ce qui permet... D'ailleurs, pourquoi ? Entre autres parce qu'on a remarqué que certains copistes étaient meilleurs que les maîtres. Et certains se faisaient prendre comme cela. On les reconnaissait parce qu'on disait « Oh, ça c'est la patte de monsieur tel et tel qui... » Et on reconnaissait la qualité de son travail, et c'est à cause de la qualité de son travail qu'il se faisait prendre. Donc on a reconnu leur talent, et aujourd'hui ils peuvent exercer dans la liberté, puisque aujourd'hui ce ne sont plus des faux, ce sont des faux vrais ou des vrais faux. Dieu est vrai. Ça, vous le lisez dans tout le Nouveau Testament. En même temps que Dieu est vrai, Jésus-Christ est vrai aussi. Jean 14, 16 nous apprend que le Père, donc la vérité, est en Christ, donc la vérité est en Christ, donc Jésus est vrai. Dans Marc, au chapitre 12, il y a même des gens qui ne l'aimaient pas, qui lui ont dit qu'il était vrai. Au verset 14, je vais commencer au verset 13, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. C'est remarquable. Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Quel témoignage de la part de ceux qui ensuite l'ont crucifié. Tu es vrai et tu enseignes la vérité. Et c'est bien parce qu'ils savaient cela que Jésus était aussi virulent vis-à-vis d'eux. Ils savaient, les pharisiens savaient qu'il était le Fils de Dieu. Et malgré cela, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Donc la vérité a des vertus, elle libère, elle affranchit, dans Jean 8, 32. Jean 16 nous apprend que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité et que nous sommes sanctifiés par la vérité, dans Jean 17. La vérité est aussi un fruit de l'Esprit. On lit ça dans 2 Pierre 1, chapitre 12, qui est en nous et qui est avec nous, on lit dans Jean. La vérité, c'est donc pas simplement le contraire de l'erreur. C'est pas simplement cette opposition, le vrai et le faux, qu'on peut parler, parfois voir. La vérité, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Connaître, on est avec. Et la parole nous dit que nous sommes conviés à agir selon la vérité, selon ce que nous connaissons et qui agit à l'intérieur de nous. Nous devons aussi être obéissants à la vérité. Il pleure, hein, ton enfant. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est terrible. Et nous devons porter la vérité à nos reins, comme une ceinture. Ça fait beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, sur la vérité, pour pouvoir dire « la vérité n'existe pas ». C'est clair que ça devient compliqué de croire en Dieu et d'avoir une vie spirituelle, je trouve pas en français, fruitful, qui porte du fruit. Merci. Si on a là, quelque part, dans notre tête, l'idée que la vérité, elle est mouvante. Si on a cette idée-là, si notre mentalité est comme cela, que la vérité n'est pas stable, n'est pas une fondation absolument ferme et définitive, alors c'est tout l'édifice qui est construit dessus, qui lui-même va être un peu branlant. L'apôtre Paul a posé une question aux Galates. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et donc j'en viens à ma question et à notre position par rapport à cette vérité. Dans Matthieu 25, Jésus donne une parabole, la parabole des 10 vierges. Je vais la lire. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non !» Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Il y avait 5 vierges qui avaient cru en la vérité. Elles savaient que que le Fils de l'homme viendrait. Il s'agit d'une parabole qui nous parle de la fin des temps. Elles savaient que le Fils viendrait et elles se sont équipées pour attendre. Le Fils a tardé, l'époux a tardé. Et aujourd'hui, on a ce genre d'écho. Mais Jésus ne vient pas. Même les chrétiens, Jésus ne vient pas. Il tarde. Il tarde. Et peut-être qu'un jour, on va s'endormir. On va s'endormir. On va s'endormir. Et les cinq qui ont cru en la parole se sont équipés pour vraiment être pourvu lorsque l'époux viendra. Cinq autres se sont dit que pour avoir le jour venu, on aura le temps peut-être de rectifier tout ça. Enfin, on va parer au plus pressé et on va faire avec. Et elles se sont endormies, elles aussi. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Il n'était pas à la porte. Allez le rencontrer. C'est pour aller le rencontrer qu'il vous faudra une lampe avec du carburant, du combustible. « Voici l'époux, allez le rencontrer parce que la nuit est noire. » Et il faut du carburant pour aller jusqu'à lui. Les cinq qui ont cru, peut-être en désespérant à certains moments, mais qui ont cru, savaient ce qu'elles avaient emmagasiné, et elles savaient qu'elles avaient pris pour elles. Et il n'était pas question de partager, c'est trop important à ce moment-là, n'est-ce pas? Je ne peux pas donner ma place lorsqu'il s'agit de retour de l'époux. Je ne peux pas. Et les cinq, sans carburant, sans combustible, se sont retrouvés rejetés à l'entrée. Et ma question pour nous ce matin, c'est de quel groupe faisons-nous partie aujourd'hui? Aujourd'hui. On n'a pas encore entendu crier « L'époux vient ». On ne l'a pas encore entendu. Il n'a pas encore été vu. Mes frères et sœurs, pour moi, il est en chemin. Il est en chemin. De quel groupe faisons-nous partie ce matin ? Si notre lampe est remplie, alors nous sommes bien heureux. Si notre lampe est remplie ce matin, nous marchons dans la vérité. Si votre lampe est remplie, vous êtes ce matin caché en Christ, avec Christ, en Dieu, pardon. Ça, c'est la réalité. Si vos lampes se remplissent, alors vous faites partie de ces gens un peu fous qui parlent à Dieu à voix haute lorsqu'ils sont seuls, parfois même lorsqu'ils ne sont pas seuls, qui croit en un Dieu qu'on ne voit pas, qui croit au retour de l'époux. Vous êtes partis, vous faites partie de ceux qui sont, même lorsque vous êtes des scientifiques, vous faites partie de ceux qui mettent plus votre confiance dans la foi et dans l'espérance que dans la logique et dans le rationnel. Avec le temps, vous avez appris à le connaître. N'est-ce pas? Lorsqu'on se met en couple, on apprend à se connaître. Et en principe, l'amour grandit. Alors, si vous avez cru en Dieu, aujourd'hui, votre amour grandit pour lui. Et vous êtes bien en sa compagnie. Vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez accueilli. Vous êtes devenu familier. Vous l'interrogez sur tout. J'ai bien aimé quand Pascal est intervenu, ça. Ça correspondait bien à une partie de ce que j'ai écrit. Il y a un dialogue qui s'installe. Il y a une sorte de compréhension de sa pensée qui rentre, qui s'instille dans la vôtre. Vous n'êtes plus en train de vous demander, mais est-ce que je suis en train de faire sa volonté ce matin? Est-ce que j'ai bien fait de faire cela ou pas? Oh, je ne dis pas qu'on ne se trompe pas. Mais on rentre dans ces choses et on commence à vivre la réalité de la relation avec Dieu. Si vos lampes sont remplies, c'est comme cela que vous vivez aujourd'hui. À son contact, vous avez découvert ce que c'est réellement l'amour. Vous avez compris que ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez connu au début. Même l'amour initial, je ne vais pas le mélanger avec le premier amour, mais l'amour un peu coup de foudre qu'on peut avoir avec Dieu au début, même ça, ça a changé. Pour vous, obéir à sa parole, c'est normal. Ça ne pose même pas de questions. Obéir, c'est pas pénible. Ça fait juste partie du quotidien. C'est devenu une norme, obéir. Se plaindre. Vous avez oublié ce que ça signifie que de se plaindre. Vous n'êtes plus sans arrêt en train de vous dire « Oh, il fait moche aujourd'hui. Je me sens pas bien. » Il y a mon fils qui me regarde intensément quand je parle de plainte. Il y a tout ça, vous avez oublié, n'est-ce pas? Si vos lampes sont remplies d'huile, vous avez oublié ce que ça signifie que la plainte. Mais au-delà de ça, vous avez gagné en espérance et en confiance en lui. Vous croyez tout ce qu'il vous dit, sans discussion. Pas juste 90%, mais 100%. Et lorsque pendant un temps, il est parti. Lorsque pendant un temps, il est silencieux et il ne vous parle pas, vous n'êtes pas en train d'interpréter ces silences. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah, j'ai prié, il ne m'a pas répondu, alors ça veut peut-être dire oui, mais non, ou plus tard. Ça... » Non, il est juste silencieux. Lorsqu'on aime, on aime aussi les silences de nos conjoints. N'est-ce pas? On n'est pas en train de les interpréter, j'espère. Ah, oh, tu m'aimes plus. On n'interprète pas les silences de Dieu lorsque la lampe est remplie. Vous avez remis votre vie en totalité. Et vous avez expérimenté que Dieu prend en charge toutes vos incapacités. Vous avez expérimenté ça? Moi, je l'expérimente en ce moment. N'est-ce pas? Allez, faire, agir. Alors que 10 ans avant, vous auriez dit, oh là, non, c'est pas la peine, je démissionne, je fais pas. Aujourd'hui, vous avez toujours la même envie, mais vous le faites. Parce que ce n'est plus vous qui le faites, mais c'est la puissance de Dieu en vous qui agit. Si votre lampe est remplie, alors ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. C'est que votre position dans la société, dans votre famille, soit reconnue comme digne de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'une raison particulière pour vivre. Vous avez compris que la vie, c'était Christ, et que de toute façon, vous n'étiez pas en vie avant. Vous avez commencé à vivre lorsque Christ s'est imposé à vous. L'apôtre Paul a pu dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est pas qu'il était suicidaire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est lorsque la lampe est vide. C'est simplement que c'était l'un ou l'autre. C'est égal. C'est pareil. C'est la volonté de Dieu que je veux faire. Point. N'est-ce pas? Si aujourd'hui vous pouvez, sans mentir, dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alors, vous faites partie de ceux, et tout ce que j'ai dit auparavant, faites partie de ceux dont les lampes sont remplies. Et l'époux peut venir. Vous aurez de quoi le rejoindre lorsqu'il faudra le rejoindre. À vous qui ne vous êtes pas reconnus dans la description précédente, j'aimerais dire que vous êtes en danger. Vous êtes en réel danger. Si vous êtes à court d'huile ce matin, il ne s'agit pas de continuer longtemps dans cette situation-là. Il n'est pas certain que vous soyez vraiment conscient de cela. Il n'est même pas certain que vous vous sentiez mal. Peut-être que tout va bien dans votre vie, que vous avez un bon travail, que vous gagnez de l'argent, que vous n'avez pas de soucis particuliers. Vous n'avez pas de problème avec votre image personnelle. Mais votre lampe est vide. Peut-être que vous êtes sûr de vous, de vos capacités d'analyse. Il y a un homme qui n'avait pas de problème du tout avec son image. Il s'agit de Samson. On va le retrouver dans Juges. Vous connaissez l'histoire de Samson. Samson était un homme fort. C'était un homme efficace. On ne lui racontait pas d'histoire. Tout ce qui lui arrivait, il le réglait par la force. Mais il le réglait. Et au verset 20 du chapitre 16, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je m'en tirerai, comme les autres fois. Vous savez que Delilah lui rabâchait les oreilles, il lui disait, mais qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force, Samson? Il y a donc un jeu de séduction, de questions, de réponses. Et Samson, plutôt que de se débarrasser de cette femme dont il réalisait bien qu'elle voulait le piéger, a continué à la fréquenter, à être avec elle. Pourquoi? Parce qu'il disait, je m'en tirerai, comme les autres fois. Samson avait une grande confiance en lui. Il n'avait pas de problème avec son image personnelle. Il savait qu'il était un juge, que Dieu était en lui et lui donnait sa force. Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Samson est le type même de l'homme et de la femme qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Samson est le type même de ceux qui marchent sur la corde raide. La corde raide, c'est celle du funambule. C'est celle où on marche avec la possibilité à chaque instant d'être déstabilisé. À sa grande frayeur, il a vu que cette fois-ci, lorsque les cheveux étaient rasés, eh bien, il n'était plus question de s'en tirer. Si vous êtes à court d'huile ce matin, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Et peut-être que vous marchez sur la corde raide. Peut-être que Dieu a fait de grandes choses dans vos vies. Mais peut-être que vous êtes aussi à la limite de tomber. Samson était assis sur un trône, le trône des juges. Mais il était surtout assis sur le trône de son orgueil personnel, sur le trône de ses capacités personnelles. Sa vie entière était consacrée à lui-même, pas à Dieu. Et ce qui l'a fait céder, c'est un problème qu'on rencontre lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ça s'appelle l'impatience. Vous savez que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est patient. En plus de plein d'autres choses. Eh bien, c'est l'impatience Verset 17, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. C'est l'impatience qui fait chuter ceux dont les lampes ne sont pas remplies. Et là, c'est donner une ouverture aux malins. C'est cela qui se passe. C'est qu'à force de compter sur soi-même, le malin va trouver la faille, parce qu'il a le temps. Et si nous, nous fricotons avec lui, si nous marchons sur la corde raide, alors un jour, par impatience, nous allons lui donner ce qu'il faut pour qu'il nous batte. À l'inverse, peut-être que contrairement à Samson, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez le sentiment d'être injustement traité par Dieu. Vous vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que certains ont des dons et des bénéfices que vous n'avez pas. Vous êtes peut-être comme... Vous savez la parabole des 5 talents, on la lit en fait juste après la parabole des vierges. Longtemps après, verset 19, 25 et 19, Matthieu, après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre leur compte. C'est la fin de l'histoire. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, ah merci mon ami, parce que sinon j'aurais tout perdu. C'est pas ça. Hein. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, où je n'ai pas semé, que j'amasse, où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Avec un intérêt. Ça n'a rien à voir avec la crise actuelle. Peut-être que vous trouvez aujourd'hui que le Seigneur ne vous a pas bien doté. Qu'un talent, ce n'est pas beaucoup. Et vous ne dites pas que c'est Dieu. Vous dites, je suis né comme ça. C'est la nature qui m'a mal doté. Parce que vous connaissez Dieu un peu quand même. On n'ose pas quand même aller dire, ouais, Dieu, on ne fait pas ça de front, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est quand même qu'on pointe Dieu du doigt. Tu ne m'as pas bien doté. Alors, votre vie, c'est surtout de l'incompréhension, de la déception. Le talent, plutôt que de le faire fructifier, même petit, eh bien vous l'avez enterré. Et en même temps que vous l'avez enterré, votre déception a grandi. Et votre incompréhension aussi. On vous aura entendu peut-être vous plaindre de votre incapacité à faire des choses. Du fait que vous n'avez pas de choses à faire. Et que finalement, puisque vous aviez si peu de choses, si peu de capacités, eh bien que vous étiez bien inutile. Et que finalement, peut-être même, vous prenez un peu pour l'apôtre Paul en disant « Mais oh, je peux bien mourir aujourd'hui, c'est pas grave. » Vous voyez la différence entre ce que disait l'apôtre Paul et l'attitude qu'on peut avoir lorsqu'on a envie de mourir parce qu'on se sent inutile. Est-ce que votre lampe est remplie ce matin ou est-ce qu'elle est vide ? Si c'est là votre état d'esprit, alors vous êtes en grand danger. Même si vous pensez que tout va bien. Je ne tiens pas ce matin à ce que aucun ici ne se sente condamné par ce que je dis. Parce que on n'a pas encore vu venir l'époux. Et ce matin, c'est le moment de se mettre en règle, de balayer tout ce qui vient lutter contre la vérité. De se dire, moi je veux remplir ma lampe maintenant, Parce que même s'il va falloir dormir, même si les temps seront durs, même s'il va falloir se lever dans le milieu de la nuit, partir, rencontrer l'époux, mais je veux être prêt pour cela. Je ne veux pas être de ceux qui seront arrivés en retard et à qui le Seigneur va fermer la porte. Dans Luc, il est dit que Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Dans 1 Jean, il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est dit dans Jean 1 que Jésus est la véritable, la vraie lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Je vous repose la question que posait l'apôtre Paul. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez si bien. Qui? Et si vous prenez son autre question dans Galates 3 au verset 1, je vais la lire. Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, ensorcelé, est le terme en grec, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'entrer dans cette vérité et d'en retirer les bénéfices pour notre vie quotidienne, mais surtout pour après? Qui? Quoi? Quel genre de problème? Est-ce que c'est parce qu'on a mis des limitations à la vérité? Est-ce que c'est parce qu'on nous a enseigné que la vérité a des formes multiples? Et que de ce fait, notre foi en Dieu a baissé. Est-ce que c'est parce qu'on est comme Samson, on marche sur la corde raide en disant « Mais je m'en dégagerai toujours, j'y arriverai toujours à me débrouiller. » Mais le jour où on tombe, c'est trop tard. Vos limitations personnelles, vos craintes, vos peurs, l'amertume, le sentiment d'injustice, qui, quoi? Quelles excuses allons-nous pouvoir invoquer lorsque nous serons devant la porte et que celle-ci sera fermée? Mon enfance malheureuse? Ma vie gâchée? Qui? Quoi? Jésus-Christ n'a-t-il pas tout accompli pour prendre en charge toutes ces choses? Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui nous vivions comme ces 5 vierges folles? Il est temps aujourd'hui encore de remplir la lampe afin que nous ne soyons pas rejetés